Je sais pas vous, mais moi cette première rencontre avec Michel Scriff, ça m'a donné envie d'en savoir un peu plus. Je l'ai donc questionné sur la nature en ville, sur la COP21, sur le jeu coopératif, ou encore d'autres choses. Tenez, approchez-vous, pour profiter vous aussi de ses réponses. Bonjour Michel, j'ai le plaisir aujourd'hui de t'accueillir sur Éveiller Nature. Alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu aux auditeurs d'Éveiller Nature, Michel ?
Bonjour, bonjour Émilie, bonjour les lectrices et les lecteurs d'Éveil Nature. Je suis Michel Scrive, donc je suis animateur environnement et nature à Paris. Et je fais beaucoup d'activités depuis pas mal d'années sur les savoir-faire, sur l'utilisation des plantes, sur beaucoup de choses. Et j'ai publié Jouer Nature, un livre d'activités et de jeux nature. Il y a un mois et demi.
Alors qu'on est en plein boom technologique et que de plus en plus d'outils éducatifs sont à la disposition des parents, et notamment sur écran vidéo ou tablette numérique, eh bien de plus en plus de parents semblent se réapproprier l'espace naturel et les savoirs traditionnels pour éduquer leurs enfants. Quel est ton point de vue sur ce phénomène ?
Pourquoi la nature ? Reprendre contact avec des choses vivantes, avec le temps, avec la respiration, avec le toucher, donc plein de choses intéressantes et essentielles. Donc jouer avec la nature, jouer dans la nature, ça me semble très important. Voilà.
Beaucoup de parents me contactent pour me dire que l'éveil à la nature, ça leur parle, mais que leur problème c'est qu'ils habitent en ville et que l'accès à la nature est compliqué pour eux. Toi qui es éducateur nature au nord de la ville de Paris, quel message peux-tu adresser à ses parents ?
En ville, on peut faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de matériaux naturels qu'on peut trouver facilement. Du pissenlit, il y en a partout. Du plantain, du lierre, des glands, des marrons. Et donc, les enfants d'avant utilisaient ce qu'on trouvait partout et facilement. Et ça, en plus, en ville, on parle de plus en plus de biodiversité. Donc, il y a des friches. Il y a des parcs qui sont gérés un peu plus naturellement, il y a des matières qui sont vues comme des déchets, qui peuvent devenir des ressources, des roseaux dans les parcs, des choses comme ça. Donc la nature est présente, il suffit d'ouvrir grand les yeux. À Paris, on peut trouver des faucons pèlerins, des faucons cresserelles, on peut trouver des hirondelles, on peut trouver différents types de fougères, des choses comme ça, donc... Il y a beaucoup de variétés de plantes quand on cherche bien, dans des petites rues pavées, dans le coin des murs. Donc il y a des ressources, elles sont là. Il faut se promener, et puis il y a des endroits un petit peu plus laissés tranquilles. Ça existe.
Actuellement a lieu la COP21 à Paris. Donc de grandes décisions sont prises concernant nos activités humaines, en espérant que ça amorcera une transition vers des comportements plus respectueux, des équilibres naturels. Comment envisages-tu cette transition ?
Donc en ce moment vient de commencer la COP21, donc un moment important pour avoir le même discours, pour parler des problèmes qui ont l'air abstraits mais qui sont très concrets. Donc après, la transition, elle doit être au quotidien, en consommant un petit peu plus intelligemment, en mangeant des produits de saison, en essayant de retrouver des plaisirs simples, en partageant. Donc ces valeurs écologiques, elles rejoignent beaucoup de valeurs humaines pour moi. Et donc il faut partager, continuer, expérimenter, faire un petit peu tous les jours et pas tout seul. Donc c'est pour ça que le site Éveil Nature, comme d'autres, sont très utiles.
Dans ton quotidien en Seine-Saint-Denis, est-ce que tu perçois des signes encourageants de cette transition ?
La Seine-Saint-Denis, contrairement à ce que véhiculent les médias, c'est un terrain d'expérimentation, de mixité sociale, de beaucoup d'initiatives citoyennes, écologiques. Donc, moi, j'ai un réseau de dons et on est plusieurs centaines de personnes à donner, partager gratuitement ce que les gens n'ont plus besoin. Il y a beaucoup de jardins partagés, il y a des AMAP, il y a des réseaux de réparation, d'entraide, donc sur la précarité énergétique, il y a des associations, donc il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives, c'est très intéressant, donc la transition existe, les gens ont envie de vivre autrement, et surtout en plus, des fois, ils n'ont pas le choix, Donc c'est intéressant, c'est un territoire intéressant, très vivant.
Dans ton livre Jouer Nature, tu milites pour le jeu coopératif. Pourquoi est-ce important aujourd'hui de redonner sa place à ce type de jeu?
Alors pourquoi le jeu coopératif, coopérer? Ben dans la nature, la plante a besoin d'un insecte, les racines des arbres ont besoin des champignons, donc et elles ont besoin des oiseaux qui viennent manger les parasites. Donc oui, il y a tout un des tonnes d'interactions. Le jeu coopératif, c'est soit on gagne ensemble, ce qui est un peu la COP21 en ce moment, soit on perd ensemble. Donc à un moment donné, on n'a qu'une seule planète, et puis c'est bien aussi de savoir que l'effort collectif est récompensé, c'est valorisant, c'est utile. Donc il y a beaucoup de jeux de compétition qui peuvent, avec quelques modifications ou pas grand chose, peuvent être transformés en jeux coopératifs, et ça laisse d'autres souvenirs. Voilà, il y a pas beaucoup qu'on perdu et un qui a gagné. Il y a un bon moment qui est passé ensemble, et je pense que dans la nature, c'est intéressant aussi.
Certains parents se rapprochent de la nature parce qu'ils pensent que c'est bénéfique pour l'épanouissement de leurs enfants. Alors il y a parmi eux des parents d'enfants dits hyperactifs ou en décrochage scolaire, mais aussi des parents qui souhaitent simplement tisser un lien réel entre leurs enfants et la nature. Et toi Michel, tu travailles au quotidien avec des enfants plutôt citadins que tu mets en lien avec la nature. Comment perçois-tu évoluer ces enfants ?
Alors en ville, il y a des enfants qui ont des relations très diverses à la nature. Il y en a qui ont l'habitude d'aller en vacances avec leurs parents, qui ont des grands-parents, qui partent le week-end, et puis il y en a qui ont un petit peu à redécouvrir, un peu comme une langue étrangère, donc pas à pas, tranquillement, remettre les mains dans la terre, jouer, beaucoup jouer avec les plantes, ça permet d'appréhender plus facilement cet univers-là, donc travailler en petits groupes, échanger, raconter des histoires. Il y a plein de portes d'entrée, faire des expériences scientifiques, regarder, etc. Donc toutes ces expériences très variées qui vont de la cuisine à faire une banque de graines, à visiter des jardins, etc. Ça fait plein d'expériences qui s'empilent comme un millefeuille et qui enrichissent les pratiques, le vécu, les sensations. Et petit à petit, les enfants commencent à se dire que oui, c'est chouette d'avoir des coins de nature dans un coin de l'école, dans son quartier. Ça se fait petit à petit. Il y a un besoin, il est là, il est assez ressenti, beaucoup dans le nord-est de Paris. Mais ça se diffuse et ça commence à être bien compris par tout le monde.
De plus en plus de parents semblent être en demande d'un coup de pouce pour apprendre à éduquer leurs enfants à la nature. Et ton livre, Jouer Nature, c'est une excellente réponse. Sais-tu si dans le même esprit, il existe des ateliers pratiques du style « J'apprends à éduquer mes enfants à la nature » ?
Alors, des endroits où les enfants peuvent faire des activités nature, il y a les clubs CPN, Connaître et Protéger la Nature, qui sont un petit peu partout en France. Sinon, c'est beaucoup de l'initiative individuelle, donc peut-être qu'il y a des familles qui vont pique-niquer ensemble en forêt, ce genre de choses. Des activités d'ethnobotanique, il y a des régions comme la Bretagne qui essayent de préserver ce savoir-faire, de jouer avec les plantes, etc. Les traditions populaires qui sont des fois un peu maltraitées ou pas vu comme un savoir disparaît, donc c'est important de préserver ces savoirs qui maintiennent cette relation à la nature, qui est beaucoup culturelle aussi. Donc c'est un petit peu à nous de développer tout ça et de faire que ça a un nouveau lieu. Donc l'édition marche bien, il y a beaucoup de livres qui se diffusent sur des recettes nature, plutôt cuisine en général, ou jardinage. Voilà, il y a quelques livres d'activités, mais il en faut plus avec des expériences pratiques. Donc, moi, j'essaye de transmettre la mienne, qui vient de mon travail et d'expérience personnelle. Sinon, il y a d'autres pays comme la Belgique où il y a des vraies structures qui font ça. Et parfois, les centres permanence d'initiation à l'environnement, CPIE, qui font de temps en temps ce genre d'activités. Mais il faut vraiment que les jardins partagés et toutes les autres structures associatives développent de plus en plus ce genre d'approche.
Merci beaucoup à toi, Michel, passeur de nature. Moi, ça me donne super envie d'essayer, hein, tout ce qui est dans ton livre. Et vous qui avez écouté cette interview, si tout ceci vous a donné envie de vous équiper de cet excellent bouquin, ou alors de l'offrir, hein, cette saison, eh bien, n'attendez plus, courez chez votre libraire, il est aux éditions des Presses d'Île-de-France, dans la collection des carnets Habiter autrement la planète, et il est au prix de 14 euros. Vous pouvez d'ailleurs le commander en ligne sur le site www.presse-idf.fr, mais vous trouverez le lien juste en dessous de cette interview. Voilà, n'hésitez pas à venir nous dire ce que vous avez pensé de ce livre dans la rubrique des commentaires ou de revenir nous raconter comment vous l'avez utilisé. C'était Émilie Lagoët pour Éveiller Nature. Je vous souhaite d'excellentes sorties nature en famille et je vous dis à très bientôt.